A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous chopperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattable. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'un million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année comme Bache, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande, des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand Agathe rencontre Léo, elle rencontre aussi l'amour pour la toute première fois. Et si cette mainmise qu'il lui imposait, c'était ça l'amour? Pourquoi ne s'adapterait-elle pas à cette pression puisque tout ce qu'il veut lui, c'est finalement qu'elle l'aime? Alors comment savoir si on est victime de violence quand on n'a aucune référence, aucune expérience? Agathe décortique les mécanismes de l'emprise et vous raconte sa toute première histoire, malheureusement pas si extraordinaire.
J'ai 16 ans, je suis au lycée, en classe de première. C'est une classe dans laquelle je ne connais absolument personne, ce n'était pas mon lycée de secteur. Donc grosse découverte au niveau amical en tout cas. Et puis je rencontre très vite Léo, qui est quelqu'un qui prend beaucoup de place au sein de la classe. C'est un peu le clown de service, celui qui parle tout le temps, qui attire l'attention de tout le monde et qui cherche aussi la réaction en tout cas et l'échange constant avec tout le monde, mais on sent un besoin, en tout cas, d'être au centre de tout, tout le temps. Et c'est pas quelqu'un qui, d'emblée, m'attire, ni physiquement, enfin, ni dans sa personnalité, parce qu'à l'inverse, moi, je suis plutôt réservée, calme, posée. Mais j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer, sa façon d'échanger, de parler. Donc, finalement, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait m'intéresser parce qu'il me fait beaucoup rire et que c'est très important pour moi. Je sens bien qu'en tout cas, moi, je l'intéresse. Il cherche toujours à s'asseoir à côté de moi en classe. Dans les couloirs, il est tout le temps là. Donc, il prend énormément de place. Mais moi, je l'identifie plus comme lié à sa personnalité. Enfin, voilà, c'est l'image que j'ai en plus de lui au sein d'un groupe. Au fur et à mesure, je m'intéresse aussi à lui, à ce qu'il est, à sa famille, ses intérêts. Et finalement, on a quand même beaucoup de points en commun. Donc, je le regarde différemment. Ça se fait assez naturellement. On se rapproche de plus en plus au fil des semaines et des mois. Et puis, du jour au lendemain, en fait, il ne me parle plus, il ne me regarde plus. Je suis littéralement transparente. Et donc, je ne comprends absolument pas sa réaction. Ça engendre vraiment une angoisse, une anxiété, un trou dans le ventre, parce que je ne trouve vraiment pas de raison, en tout cas, à ce silence. Et donc, je finis par aller le voir pour un peu crever l'abcès avec lui. Et tout de suite, il me dit qu'il va pas me courir après pendant des mois et que lui, il est très intéressé par moi et que si moi, je ne le suis pas, en fait, voilà, ça s'arrête là. Il m'a jamais dit clairement que, en tout cas, il m'appréciait. Je pense qu'il y a eu des signes que j'ai pas forcément vus et interprétés de cette façon-là. Mais quand il me dit ça, je me dis, c'est vrai ce qu'il me dit. Enfin, c'est vrai qu'on est tout le temps ensemble, qu'on se parle tout le temps. Finalement, est-ce que c'est pas ça les débuts de sentiments pour quelqu'un? Je m'excuse en disant que voilà, j'avais effectivement pas perçu les choses de cette façon-là et que c'était en tout cas pas le message que je souhaitais lui envoyer. Et puis ça se fait tout naturellement. Il revient tranquillement vers moi et sans qu'on officialise la relation, on était en couple en fait. On se voit en fait tous les jours parce qu'on est dans le même lycée, mais aussi dans la même classe. On échange déjà beaucoup de moments toute la journée. Le soir, on est toujours aussi en lien avec nos téléphones. On s'appelle beaucoup, on s'écrit. Le week-end, on se voit quand même globalement régulièrement, mais c'est vrai qu'on n'habite pas dans la même ville, donc c'est pas toujours évident de se retrouver. Pour autant, ça arrive quand même assez souvent. Rapidement, je rencontre sa mère. Je réalise qu'il a déjà beaucoup parlé de moi parce que elle m'accueille à bras ouverts, très gentille, très souriante, très bienveillante, et elle connaît déjà des aspects de ma personnalité ou des anecdotes, des choses que j'aurais pu raconter à Léo. Donc je suis assez rassurée, je me sens bien avec eux deux. Je vois aussi qu'ils ont une relation très fusionnelle et ça me rassure. Je trouve ça sympa en fait de rencontrer pour la première fois une sorte de belle-mère et que ça se passe aussi bien avec elle. J'exprime pas forcément à mes parents que je suis tombée amoureuse parce que c'est un trop grand mot du haut de mes 16 ans. Mais effectivement, je parle très facilement de Léo et de tout ce que je peux faire avec lui. Aussi parce que quand on se voit, forcément, mes parents me demandent où je vais et ce que j'ai l'intention de faire. J'en parle assez facilement, mais sans forcément parler d'amour et de sentiments amoureux, parce que déjà très pudique. Et puis, c'est vrai qu'à 16 ans, j'ai pas trop envie de raconter à mes parents ce qui se passe avec mon premier amoureux. Le début de notre relation, c'est plutôt milieu de notre classe de première. Donc les mois défilent et tout va très bien. Donc on est de plus en plus proches. Ce qui devient un peu pesant, c'est la place qu'il prend et qu'il cherche à prendre constamment dans ma vie de tous les jours, en plus de ce qu'on partage déjà au quotidien à l'école, et notamment dans mes déplacements. Le départ du domicile jusqu'à l'arrivée du lycée est certes angoissant pour moi, mais ça reste un sentiment qui m'appartient et je ne lui demande pas non plus de combler ou en tout cas d'arrondir cette anxiété. D'office, il me propose d'envoyer en fait un premier message quand je pars de chez moi, un autre quand je suis arrivée à ma gare de départ, un autre pour dire que je suis dans le train, un pour dire que je suis arrivée à la gare et du coup après un pour dire que je marche jusqu'au lycée. Et c'est vrai que quand il me le propose, je ne me pose pas de questions et tout de suite, je trouve ça très mignon. Parce que, encore une fois, il sait que les transports, c'est compliqué pour moi et je comprends complètement la démarche. Au moins, il connaît mon itinéraire. Si j'envoie pas tel message, c'est que forcément, il s'est passé quelque chose. Je trouve ça juste mignon et donc, effectivement, je me prends au jeu et j'envoie ces messages. Par contre, un matin, ma mère, très gentille, décide de mettre mon vélo dans son coffre. Et donc, je n'envoie pas le premier message puisque, pour moi, je suis avec ma mère, donc j'ai pas de raison de le prévenir. Je suis forcément en sécurité. Et tout de suite, il m'envoie un message pour me demander où je suis, pourquoi je n'ai pas démarré de chez moi, est-ce que je suis en retard, est-ce que je suis bien levée. Et ça me fait un peu rire, donc je me moque un peu de lui, parce que bah non, pas du tout, je suis avec ma mère. Et finalement, ça a suscité vraiment une réaction particulière de chez lui. Et j'ai senti que mon message l'avait piqué et que ça l'avait énormément frustré. Il réagit assez mal en me disant qu'il peut pas deviner que ma mère effectivement prend mon vélo dans sa voiture et qu'il préfère quand même que je le prévienne. Au moins, il sait qu'il a pas besoin en fait de s'inquiéter. Donc tout de suite, c'est vrai que je me dis bah oui, si je lui dis pas, il risque pas de deviner que ma mère m'emmène. Je m'excuse et je sens bien au fur et à mesure que c'est de plus en plus lourd, c'est pesant et que si le train il vient à 7h01 et qu'à 7h02, j'ai pas envoyé le message pour prévenir que je suis dans le train. Tout de suite, c'est un autre message pour me demander où je suis, si je suis bien dans le train, ou t'as oublié de me prévenir, etc. Et donc, je sais pas trop comment l'interpréter parce que forcément, ça me fait un peu sourire. Enfin, oui, les retards de la SNCF, mais et en même temps, encore une fois, je trouve ça mignon. Je vois bien, en fait, qu'il le prend très à cœur et que ça soit le matin ou le soir. Et après, au fur et à mesure de la relation, ça s'est un peu dupliqué à tous mes déplacements. Je pratique du volley. Et donc, comme tout sport, c'est quand même aux mêmes horaires, c'est les mêmes jours. Donc, c'est quelque chose de très fixe, qui ne bouge pas. Et donc, il sait très bien que je vais à l'entraînement. Et pour autant, j'envoie ce même message. Je pars de chez moi, je suis arrivée à l'entraînement, l'entraînement va démarrer, et l'entraînement est terminé. Et donc, je rentre chez moi. Ça me semble presque normal. Comme je le fais tous les jours pour mon déplacement au lycée, Voilà, je veux pas créer une frustration chez lui, une incompréhension sur la raison pour laquelle je décide de pas le faire pour le volet. Donc je fais, j'envoie ces fameux messages. Ça m'arrive de réagir et de lui dire que je trouve ça un peu disproportionné finalement. Mais quand je le fais, il y a tout de suite une réaction qui est une colère, enfin une incompréhension de sa part. Et toujours le petit mot, la petite phrase pour me culpabiliser. Forcément, il peut pas deviner que l'entraînement finit plus tard et qu'en même temps, il a toujours envie de me parler, il a toujours envie d'être en lien avec moi, que certes, on s'est vu la journée, mais que là, on n'est plus ensemble puisqu'on n'habite pas ensemble. Donc, ça permet de maintenir un lien que de s'écrire tout le temps. Ce type d'argument, ça marche et je finis par m'y habituer. Donc, moi-même, dès que j'ai terminé l'entraînement, tout de suite, c'est je regarde mon téléphone, est-ce que j'ai des messages, il faut que je prévienne, et puis on repart dans ce flot continu de textos et d'appels jusqu'au lendemain. Après le début de la relation, donc on est majeur, habitant très proche de la frontière belge. C'est vrai que moi, je sors beaucoup en Belgique. Le problème avec Léo, c'est qu'il voulait toujours savoir où j'étais, ce que je faisais avec mes amis, notamment pendant les sorties. En Belgique, on facture les SMS, les appels. Donc, je ne peux pas, en fait, maintenir ce lien avec lui parce que c'est mes parents qui payent mon abonnement et que ce serait vraiment bizarre d'avoir du hors-forfait pour quelques messages. Donc, je tente de trouver cette excuse-là auprès de Léo pour finalement avoir un peu aussi la paix sur ma soirée. Mais ça marche pas comme argument. Donc, je finis par envoyer quand même ces messages. Sa réaction, c'est tout de suite une colère qui est pas forcément intense, mais en tout cas des reproches sur le fait qu'il a besoin de savoir si ça se passe bien, où je suis, avec qui, parfois même de quoi je parle avec mes amis. Parce que lui n'est pas là et que voilà, c'est normal qu'il soit au courant de tout ce que je fais en temps réel. On sort presque toujours, en tout cas, en groupe, rarement tous les deux. Mais quand on est en groupe, c'est assez compliqué parce que finalement, je sens bien qu'il vérifie seulement la réaction ou le comportement des autres vis-à-vis de moi. J'ai un peu le sentiment d'être sous cloche. Je suis un peu ça. Sa chose, sa bien-aimée, qu'il faut protéger, et donc personne ne peut m'approcher, personne ne peut me regarder. Et donc, si on a le malheur de tomber sur quelqu'un qui a envie de discuter avec nous, ou quelqu'un que je connais et que lui ne connaît pas, ça, c'est insupportable pour lui. Parce que tout de suite, c'est voilà, tu connais cette personne d'où, quel lien tu as avec elle, est-ce qu'il t'a déjà intéressé, est-ce qu'il t'a déjà dragué. Tout de suite, en fait, des suspicions de tout et n'importe quoi. Et quand on est même en ville ensemble, qu'on marche, qu'on se balade, enfin peu importe, il scrute vraiment tout ce que tout le monde fait vis-à-vis de moi. Et donc, quand on croise des gens dans la rue, il va même jusqu'à vérifier que je ne regarde pas cette personne comme je pourrais le regarder lui, par exemple. Donc, je prends le réflexe de marcher la tête baissée parce que, en fait, ça devient invivable. Je ne peux pas justifier à chaque fois que je croise quelqu'un que non, je ne l'ai pas regardé, que non, je ne connais pas cette personne. Et encore une fois, je ne me pose pas de questions parce que toujours la bonne excuse, le bon argument, les bons mots qui font que je finis par oublier la raison pour laquelle je trouve ça potentiellement bizarre et questionnant de devoir justifier pourquoi je croise des gens et pourquoi je les regarde d'une certaine façon. Mais toujours l'argument de on est en couple, tu ne peux regarder que moi, je suis tout pour toi et tu es tout pour moi, donc j'ai tellement peur que tu préfères quelqu'un d'autre, que tu me quittes pour quelqu'un d'autre, j'ai peur que tu puisses développer des sentiments pour une autre personne que moi ou que je sois moins bien que quelqu'un d'autre. Et moi, c'est pas du tout ma pensée, donc si le fait de marcher tête baissée, ça peut le rassurer et lui faire comprendre que non, absolument pas, je n'aime que lui, je ne veux être qu'avec lui. Voilà, si c'est le comportement à adopter, adoptons-le. C'est ma première relation amoureuse et je n'ai pas de comparatif. Et en plus, lui a un an de plus que moi. J'ai le sentiment que c'est lui forcément qui adopte le bon comportement, comme si lui avait d'office expérimenté plus de relations amoureuses. Et donc, c'est lui qui a un peu la bonne parole ou le bon comportement à avoir dans une relation de couple. Donc ça m'éloigne de pas mal de personnes. Et au-delà du contrôle des sorties et des personnes qu'on peut voir, c'est aussi les réseaux sociaux. Faire le tri des gens avec qui je suis amie sur Facebook. Puis on le fait ensemble, ce tri, en fait. C'est vraiment On fait dérouler la liste des amis. Et là, c'est détective Léo. Et cette personne, tu la connais d'où? Depuis combien de temps? T'as liké quoi comme photo? Et pourquoi celle-là, tu l'as liké? Tu le trouves beau? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as vu? Je me sens hyper mal parce qu'on recherche tous des profils sans arrière-pensée, que c'est normal, qu'on like tous des photos sans arrière-pensée, et c'est normal. Mais là, tout le temps, je me sens coupable de quelque chose continuellement, et je sens bien que c'est ce qu'il essaye de susciter en plus comme réaction. Et puis, au fur et à mesure, c'est moi qui finis par faire ce tri presque toute seule, mais pour éviter les questions, pour éviter les disputes, et en fait, pour avoir la paix et arrêter d'avoir ces moments où on se pose et qu'on fait le bilan des gens avec qui je suis amie. Et sur Snapchat, c'est la même chose. Et là, c'est encore pire parce que on voit juste un historique avec des noms. Donc, et lui, c'est qui? C'est quoi ce pseudo? Quelle personne se cache derrière ce pseudo? Il t'envoie quoi comme photo? Et toi, tu lui envoies quoi? Il scrute absolument tout. Donc moi, j'apprends aussi au fur et à mesure. J'ai bien compris comment on faisait pour supprimer certaines choses de l'historique. Si j'ai envie de voir le profil de quelqu'un, j'ai bien compris quand. En passant sur le profil d'abord d'une amie qui a un ami en commun, cette autre personne, ça n'apparaît pas. Sur le long terme, ça fatigue, en fait. Je suis vraiment épuisée, fatiguée, parce que j'ai l'impression de marcher sur des œufs. Je ne sais pas si ce que je vais dire ou si ce que je vais faire, ça va susciter une réaction chez lui, une colère, donc encore des cris, des justifications. Et j'essaye à tout prix de les éviter, parce que pour moi, elles n'ont aucun sens. Et ça devient l'enfer. Et en même temps, je ne veux absolument pas le perdre. Les disputes, elles sont de plus en plus fréquentes parce que c'est un peu comme un escalier, c'est une marche à la fois. Donc au départ, c'est les messages, après les sorties, après les relations sociales, les réseaux sociaux. Et je sens en plus que ça s'aggrave. Sa plus grande crainte, c'est que je parte, et ça, je le sais. Mais j'arrive pas à lui faire comprendre que je n'ai pas l'intention de partir. Et que c'est bien pour ça que je fais tout ce qu'il me demande de faire. C'est pour lui montrer aussi qu'il n'a pas à avoir peur de me perdre. J'en parle pas vraiment autour de moi parce que j'ai le sentiment, moi, de gérer la situation malgré tout et de gérer ces crises. En plus, je pense que personne ne le voit comme moi je le vois, puisque tout ce qu'il fait, c'est entre nous, c'est dans l'intime, c'est par message, c'est quand on est qu'à deux, et que jamais il ne fait quoi que ce soit devant les autres. Si, par exemple, on est en groupe, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, moi je le sais parce que je sais lire son visage, que je vois son regard qui est vraiment très très différent. Et je sais qu'après, ça va mal se passer et que moi, je vais passer un mauvais quart d'heure. Mais au moment même, personne ne voit quoi que ce soit. Pendant la relation, j'ai pas tellement peur de lui, j'ai peur de ses réactions. Parce que je sens que tout est beaucoup plus lourd et qu'il va beaucoup plus loin. Donc j'appréhende l'étape d'après. À chaque fois, c'est vraiment quelle va être la suite et quelle va être la prochaine crise, qu'est-ce qui va se passer à la prochaine crise. Et jamais, en fait, je n'ai jamais pu anticiper. J'ai l'impression de pouvoir le faire, mais en tout cas, je ne peux pas anticiper ses réactions. Il y a eu des moments où j'ai fait beaucoup d'allers-retours, où je décide de le quitter. Il a les bons mots, le bon discours pour me faire revenir, parce qu'il promet aussi souvent de changer, de redevenir la personne qu'il était au début, avec ce cadre très bienveillant, très apaisant, que je ne retrouve que par épisode. Et un jour, il est en formation, je suis chez lui et j'attends qu'il rentre. Et je découvre sur son ordinateur, qui est ouvert avec son compte Facebook activé, je décide de regarder ses conversations parce que je me dis, lui passe son temps à regarder les miennes, pourquoi moi je ne pourrais pas à mon tour regarder? Et finalement, je découvre une conversation avec son meilleur ami où j'apprends que pendant notre pseudo-séparation, parce que honnêtement, ça ne durait jamais très longtemps, il a eu potentiellement une relation sexuelle avec une autre fille. Et là, c'est une claque pour moi, parce que pendant ces moments de séparation, à chaque fois qu'on s'est remis ensemble, moi, je dois tout justifier. Ce que j'ai fait pendant cette séparation, est-ce que j'ai parlé à des personnes, est-ce que je me suis rapprochée de personnes, comme avant, finalement, donc les promesses de changement, elles durent jamais bien longtemps. Et là, ça a vraiment été une énorme colère, parce que finalement, tout ce qu'il cherchait à savoir chez moi, lui le faisait. En tout cas, il se permettait de faire des choses qu'il m'interdisait de faire. Et donc, j'ai décidé de mettre un terme à la relation encore une fois. Je l'ai attendu de pied ferme, en tout cas. J'étais assez déterminée à ce moment-là, que j'ai le sentiment de prendre le contrôle. C'est moi, cette fois-ci, qui ai raison, et je vais lui montrer en plus ce message. Donc, je l'attends. Quand il quitte sa formation, il me prévient qu'il arrive, sauf que je ne réponds pas, je tiens bon. Il m'harcèle parce que je ne réponds pas et qu'il n'est absolument pas habitué à ce que je ne réponde pas. C'est trop de frustration pour lui. Je sens bien à sa façon d'arriver, de se garer, que ça va très mal se passer et que la non-réponse est insupportable. Sa façon de rentrer dans l'appartement me glace complètement parce que j'ai en face de moi le double visage. Il y a le visage de Léo, très gentil, très apaisant, et l'autre avec ce regard noir où je sais que ça va très mal se passer. Là, c'est exactement le visage qu'il a. Et en entrant dans l'appartement, tout de suite, il me demande ce que je fais, pourquoi je réponds pas. Et il voit sur la table l'ordinateur avec la conversation. Il regarde et il me dit « c'est pas ce que tu crois ». Je lui déverse littéralement tout ce que j'ai sur le cœur et cette colère parce que j'ai fait tellement de choses pour lui et j'ai accepté tellement de choses pour lui. Et me remercier de cette façon-là, je trouve ça très blessant. Et à ce moment-là, c'est insupportable pour lui parce que il ne sait pas comment sortir de cette situation. Et sa plus grande crainte, encore une fois, c'est de me voir partir. Et là, je pense qu'il sent bien qu'il ne va pas réussir, en tout cas, à me garder. Et que cette situation-là, enfin, notre relation, elle va s'arrêter là. Je le vois se retourner, ouvrir le tiroir de la cuisine. Il sort un couteau et il se taille les bras et cou devant moi. Et donc là, je me fige complètement parce que je comprends absolument rien à ce qui se passe. Je me revois quelques heures avant, tout allait bien. Puis la découverte du message, je l'attends de pied ferme, hyper déterminée. Et là, en fait, j'ai l'impression que les rôles se sont inversés. Je suis traumatisée, terrorisée. Je n'arrive plus à bouger. Je ne sais pas ce que je dois faire. Mon cerveau se reconnecte. Je crie en lui demandant d'arrêter, en tout cas de faire ce qu'il fait. Et à chaque fois que j'ouvre la bouche et que j'essaye de prononcer un mot, il se redonne des coups de couteau sur les bras. Donc je comprends bien que c'est sa façon de m'empêcher de parler. Et je sens bien en plus que ça inverse complètement la situation parce que du coup, j'avais l'impression d'avoir le contrôle. Et là, je suis clairement dans la peur. Voyant que je ne vais pas m'en sortir toute seule, je décide de quitter l'appartement parce que je ne me sens pas du tout en sécurité à ce moment-là. Je dévale l'escalier, je l'entends courir derrière moi, dévaler les escaliers à son tour. Là, j'ai peur, clairement, autant de la situation que de lui, parce qu'avec ce qui vient de se passer, j'ai aucune idée de ce qui peut m'arriver dans les minutes qui vont suivre. J'essaye de contacter sa mère, de contacter son meilleur ami pour qu'il puisse venir m'aider, parce que là, je vais pas m'en sortir. Lui est complètement dans un état de crise et moi aussi, enfin, je réalise pas du tout ce qui vient de se passer. Et finalement, ses proches arrivent à le calmer, me demandent de repartir, cherchent un peu à savoir ce qui s'est passé, mais en même temps, ils prennent pas forcément parti. Mais là, l'idée, c'est vraiment de calmer tout le monde et je repars. Et lui a été hospitalisé pendant une semaine, pas tant pour les blessures, mais pour l'acte en lui-même. Clairement, l'idée de le quitter est bien derrière moi, parce que là, c'est moi qui culpabilise énormément. J'ai vraiment le sentiment d'être fautive de ce qui vient de se passer, parce que si je n'avais pas regardé dans ses messages, il n'aurait jamais agi de cette façon-là, et on n'en serait pas arrivé là, il n'y aurait pas eu d'hospitalisation. Donc non, je me sens carrément mal. On reprend notre relation, lui s'excuse, il m'explique effectivement la vérité sur cette relation avec cette fille. Et c'est vrai qu'on retrouve un cadre assez calme et apaisant. À ce moment-là, ça n'entache pas du tout les sentiments que j'ai pour lui. J'ai vraiment l'impression d'être pas dépendante à lui, mais en tout cas, je ne me souviens plus d'un quotidien sans lui. Après cet épisode-là, il y a de nouveau plein de crises de disputes entre nous et plein de scènes de violence, mais qui sont les mêmes en fait qu'avant. Toujours dans le contrôle de tout ce que je peux faire et de tout ce que je peux vouloir faire surtout. Ça se complexifie quand on arrive sur nos études supérieures, parce que là on fait des choix différents et qu'on n'est plus au lycée, qu'on n'est plus ensemble à longueur de journée. Et que forcément moi je vais intégrer un réseau qu'il ne connaît pas et ça le fait très peur. Il n'a aucune main là-dessus, donc ça, c'est compliqué. Donc je me retrouve encore une fois à devoir justifier tout le temps les personnes que je rencontre. Et en même temps, je suis en école d'assistante sociale, donc la plupart des personnes, ce sont des femmes. Il y a très peu de raisons, en tout cas, de faire des crises de jalousie, mais il y en a de toute façon tout le temps, puisque même si j'appréhende et j'anticipe, il trouve toujours la petite raison pour laquelle il pourra exploser. Je sens que là, c'est de plus en plus lourd. Je commence à me poser des questions sur les raisons pour lesquelles je reste et où on va, en fait, tous les deux, si ça continue comme ça. Je le quitte, je reviens, je le quitte, je reviens. Donc, j'arrête de dire à mes proches et à mes amis que je suis avec lui, parce que c'est plus facile, finalement, de le cacher à tout le monde que de dire telle semaine, on est ensemble, la semaine d'après, on n'est plus ensemble. Surtout, tout le monde en a marre, de toute façon, de me voir partir, que j'ai des amis qui, effectivement, commencent à se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent et qui sont potentiellement pas normales. Et à ce moment-là, je suis pas prête à les écouter jusqu'au jour où on est chacun de notre côté dans nos soirées respectives, puisque personne ne sait, en tout cas de mon côté, qu'on est de nouveau ensemble. On avait l'intention de se rejoindre à la fin de notre soirée. Vers 23h, il m'envoie un message pour me dire qu'en gros, c'est maintenant qu'on se rejoint. Sauf qu'il est super tôt, donc comment je vais justifier auprès de mes amis pendant une soirée que je pars à 23h, enfin très compliqué, donc j'arrive à retarder un peu le moment, sauf que du coup ça agace Léo, parce que lui quand il a décidé que c'est telle heure, bah, c'est telle heure. En partant le rejoindre, je sais très bien que d'avance que ça va mal se passer. On arrive au niveau des bars, donc c'est moi qui devais le récupérer en voiture et on rentrait ensemble chez lui. J'ai essayé d'anticiper et en fait, ce que je ne pouvais pas anticiper, c'est le facteur alcool. Et ce soir-là, là, quand j'arrive, il est complètement saoul. Il essaye de rentrer dans ma voiture. À ce moment-là, je reçois un message sur mon téléphone et comme il a fait le tri dans mes contacts, le numéro s'affiche en plus 33. Donc forcément, il sait très bien que si c'est un plus 33, c'est un numéro que je n'ai plus. Et sur le début du message, « Salut Agathe, ça va ?» Je m'inquiète pour, on ne voit pas la suite. Et en fait, tout de suite, je sais très bien que ça, c'est forcément un ami dont j'ai supprimé le numéro et qui prend de mes nouvelles. Et ça va être insupportable, ça, pour Léo. Il me demande de montrer le message. Je refuse. Et on se retrouve dans une situation particulière, encore une fois, parce que je dis non. Et puis, pour le coup, un vrai non pour la première fois. Et lui n'obtient pas de moi ce qu'il souhaitait. Et donc là, c'est crise. Donc, il sort de la voiture, fait le tour pour être à côté de moi. Il essaye tant bien que mal d'attraper mon portable. J'arrive à le cacher, à le jeter. Enfin, je veux pas ce jour-là. J'ai décidé que non. Je pense que j'ai atteint, en tout cas, mon seuil de tolérance. Et donc là, la colère fait qu'il essaye de me porter un coup. Mais avec l'alcool, le coup était pas si rapide. Donc, j'ai eu le temps de le voir venir, on va dire, et de tourner la tête. Donc, je me prends le poing plutôt au niveau du cou et pas tant au niveau du visage. À ce moment-là, un ami de lycée passe et nous voit. Et il y a eu un silence qui m'a complètement transpercée parce que j'avais besoin d'aide, moi, à ce moment-là. Et que c'était pour moi un énorme signe que de le voir passer, cet ami. Et il n'a pas du tout réagi. Il nous a juste regardé. J'ai eu le sentiment qu'il me regarde un peu avec presque de la pitié. Et puis, il passe son chemin, quoi. Donc là, très difficile d'accepter que quelqu'un puisse voir et ne réagisse pas. Et finalement, Léo remonte dans la voiture, on reprend la route pour que je puisse le ramener chez lui, parce que là, je veux juste qu'il reparte. Et moi, je rentre chez moi. Quand on arrive au niveau de son appart, il vit toujours avec sa mère. Dans la voiture, il m'insulte de tous les noms, enfin, forcément, fait un blocage sur ce texto que je ne veux pas montrer. Et je vois au loin que sa mère est dans l'appartement. Donc, je décide de sortir de la voiture et de contacter sa mère pour qu'elle puisse descendre et m'aider. Parce que là, je sais que, vu sa colère, vu la situation et avec l'alcool, je ne vais pas du tout réussir à m'en sortir toute seule. Je marche dos à la voiture. Je m'éloigne pour être tranquille, pour pouvoir l'appeler et potentiellement dire ce que je veux au téléphone sans que lui soit derrière. Et j'ai juste eu le temps de l'appeler, qu'elle réponde, de lui demander de descendre. Et à ce moment-là, je sens que mes pieds ne touchent plus le sol. Et que, en fait, Léo m'a prise par derrière sans que je ne puisse ni le voir ni le sentir. Et il est clairement en train de m'étouffer. Donc, il me soulève, en fait, au niveau de la tête, du visage, avec ses mains sur mon nez et ma bouche. Et donc, mes pieds ne touchent plus le sol. Je ne peux plus respirer. Et là, c'est la panique totale parce que je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Ça dure, selon moi, très longtemps puisque je suis complètement figée par ça. J'ai même l'impression de sortir de mon propre corps et d'assister en fait à la scène. Et quand tout se reconnecte, c'est parce qu'il m'a lâchée et que je suis tombée par terre. Donc, je reprends mes esprits. En me relevant, je vois qu'il y a 4 personnes sur le parking qui nous regardent en train de fumer. Donc là, j'ai un deuxième sentiment de colère. C'est la deuxième fois qu'il y a des témoins et que personne ne réagit. Je panique complètement. Donc, je cours jusqu'à ma voiture pour repartir le plus vite possible. Pas possible. Léo court également. Donc, il arrive à rentrer dans mon véhicule. Sa mère arrive également. Je me dis que les choses vont forcément bien se terminer puisque sa mère arrive, qu'elle va le raisonner, qu'elle va prendre parti. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, tout parent prend parti pour la personne victime. Et lui est complètement en pleurs. Je pense vraiment qu'à ce moment-là, il a compris qu'il était allé trop loin, que au-delà de l'épisode des bras tailladés au couteau, là, on était sur un degré au-dessus et que je ne reviendrai pas en arrière et que là, c'est définitivement terminé. Sa mère est à côté de lui, essaye de le raisonner, de le faire sortir de la voiture. Il refuse complètement. Il n'arrête pas de crier que de toute façon, il m'a perdu, que c'est terminé, que je ne lui pardonnerai jamais. Sa mère ne comprend pas et au final, sa mère lâche. De toute façon, si elle n'accepte pas de faire tout ce que tu lui demandes de faire, c'est qu'elle ne t'aime pas. Et là, c'est l'incompréhension totale. Je me sens vraiment blessée et humiliée parce que je pense qu'en quasiment 3 ans de relation, j'en ai fait des choses pour lui, j'en ai accepté des choses pour lui. Et donc, d'office, je balance tout ce que j'ai fait, tout ce qui s'est passé entre lui, tout ce qu'on n'a jamais dit, ni à ses parents, ni aux miens. Et je me dis, avec tout ça, je vais forcément la convaincre, quoi. Et pas du tout. Elle se penche pour me regarder droit dans les yeux et me dit que, de toute façon, c'est faux et que son fils ne ferait jamais une chose pareille. Je lui explique ce qui vient de se passer, elle ne me croit pas. Et donc là, j'abandonne, clairement. Elle arrive à faire sortir Léo, ils remontent tous les deux et je rentre chez moi. Pour moi, c'est complètement terminé. C'était la ligne à ne pas franchir. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Je ne pourrais pas lui pardonner. Il essaye quand même de me récupérer, en tout cas, de m'envoyer des messages, de venir chez moi, de tenter de renouer un contact. Mais je décline, je ne veux absolument pas. Je dis rien à mes parents non plus au début. Pas vraiment prête à avouer finalement tout ce que je n'ai jamais osé leur dire. Et je pense que j'ai d'abord besoin, moi, de digérer un peu ce qui s'est passé avant de l'expliquer à mes parents. Finalement, c'est clairement mes parents qui m'ont sorti de cette situation, puisque Léo n'arrêtant pas de marceler, j'ai fini par effectivement expliquer à mon père qu'il m'avait frappé et étouffé et que j'avais mis fin à la relation. Je n'ai pas été dans les détails. Mon père ne m'a pas non plus demandé à ce moment-là plus de détails et je pense que lui-même n'était pas prêt à entendre ce que j'avais à raconter. Et il a pris son téléphone, il a appelé ses parents en expliquant que voilà, s'il venait encore une fois ou s'il y avait encore un contact, on déposait plainte. Et ça a été le silence radio. La menace de la plainte a très bien marché. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à accepter de ressortir parce que j'étais vraiment marquée par ce qui venait de se passer. En plus, j'en avais parlé à personne, donc je trouvais du soutien auprès de personne. Finalement, j'étais très, très seule. Et au bout de quelques mois, j'ai accepté de ressortir de nouveau avec mes amis le week-end. Et quand on sort, en fait, c'est compliqué parce que c'est pas non plus une très grande ville, donc il n'y a pas 10 000 bars, on est forcément dans le même. J'avais une espèce de stratégie avec son meilleur ami. Il m'envoie un message quand il a prévu de sortir avec Léo, comme ça, moi, au moins, je suis au courant, je sais dans quel bar il va être. Mais voilà, encore une fois, je peux pas dire à mes amis, eh ben finalement, on va pas aller dans tel bar parce que Léo est là, surtout qu'elles connaissent un tiers de mon histoire. Plein de fois, on est dans le même bar et ça se passe très mal parce que pour Léo, je sens bien que c'est pas terminé. Ses amis viennent me parler, me demandent de lui pardonner, qu'il est désolé, qu'il se rend bien compte qu'il est allé trop loin et moi, je refuse d'entendre. Pour moi, c'est terminé. Quand il voit que je parle avec des garçons, il vient, il agresse les autres garçons comme si j'étais encore sa chose, comme si je lui appartenais encore finalement. Il renverse des tables sur moi, enfin, il cherche ce contact et cette réaction chez moi. Et finalement, ça s'arrête le jour où il déménage et que géographiquement, il ne peut plus m'approcher. J'ai assez rapidement, malgré tout, rencontré quelqu'un d'autre, Quentin, qui est très différent finalement de Léo. Je ne suis pas tellement méfiante quand je le rencontre parce que j'ai bien intégré le fait que mon histoire avec Léo était particulière et que potentiellement, ce n'est pas parce que Léo avait agi de cette façon-là avec moi et qu'il avait été violent physiquement avec moi que tous les garçons sont comme ça, et heureusement. C'est peut-être assez naïf, hein, finalement, mais voilà, je suis allée bras ouverts vers Quentin. Et ça m'a beaucoup aidée, finalement, d'y aller bras ouverts, parce que c'est grâce aussi à cette relation que j'ai réalisé que j'étais moi-même très traumatisée par ce que j'avais pu subir avec Léo. Ça m'a permis, les débuts de relation, en tout cas, m'ont permis de mettre vraiment le doigt sur ce qui n'allait pas dans mon ancienne relation, et de me rendre compte qu'il y avait des marques à peu près de tout ce que Léo avait laissé derrière lui. J'étais très angoissée. J'avais au début de la relation du mal à sortir avec mes amis parce que j'avais l'impression de devoir justifier auprès de Quentin pourquoi je le faisais déjà, et puis où j'allais, avec qui. J'étais en fait la première à envoyer ce type de message pour lui expliquer tout le détail de ma soirée, surtout mes déplacements, jusqu'au jour où c'est lui qui finit par me dire qu'il n'a absolument pas besoin de savoir en temps réel où je me trouve, avec qui, de quoi je parle, qu'un petit message de temps en temps pour me dire que ma soirée s'est bien passée, bien sûr, avec plaisir. Et aujourd'hui, je justifie plus tout ce que je fais auprès de lui, mais il y a toujours des marques, il y a des choses qui sont encore difficiles pas forcément à oublier, mais en tout cas dont j'ai du mal à me débarrasser. Marcher dans la rue avec quelqu'un derrière moi, c'est toujours aussi compliqué. Ça me ramène forcément à des moments compliqués avec Léo. Le fait d'être toujours à l'affût du moindre message, la moindre notification, c'est toujours le cas. Donc aujourd'hui, 6 ans après, je suis toujours collée à mon téléphone pour répondre dans la seconde. J'en ai conscience, je le sais, et je travaille là-dessus. Après, c'est des lieux où je ne vais plus, des chansons que je suis plus du tout capable d'écouter, des odeurs, des... Donc, ouais, ça laisse des marques pendant un bout de temps. On a des stages tous les ans en formation d'assistante sociale. Et dès que je suis rentrée en école, je savais, en tout cas, je voulais absolument faire un stage en violence conjugale. C'était vraiment une thématique qui m'intéressait, qui m'interpellait, que j'avais envie de comprendre. Pas tellement par rapport à ce que j'avais vécu, c'était sûrement inconscient, mais... C'était une certitude, je voulais passer par ce stage-là. Et donc, j'ai eu l'opportunité de le faire à l'étranger, ce stage. Donc, je suis partie 6 mois dans une maison d'aide et d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Et là, j'ai été très, très soutenue et accompagnée par l'équipe. Donc, j'ai passé 1 mois dans les bureaux à étudier la théorie des violences conjugales, allant des différentes formes de violences, mais les mécanismes, donc le cycle des violences, les répercussions, les traumatismes. Et le fait d'apprendre... de me nourrir professionnellement de toute cette théorie, alliée au discours des femmes qui étaient actuellement hébergées. Je sens bien que ça vient toucher quelque chose en moi. Ça vient titiller, en fait, un point ou en tout cas des souvenirs sur lesquels je n'avais pas du tout envie de revenir. Et finalement, ça me travaille trop. Donc, je finis par prendre un temps avec ma référente de stage et je lui demande juste de m'écouter. Je veux lui raconter tout ce que j'ai à dire et tout ce que j'ai subi avec Léo, et je veux juste un oui ou non, c'est de la violence. Et donc je lui raconte, et je reste un peu sans voix sur la fin, et je vois son regard, et juste à son regard, de toute façon, je comprends bien quelle va être la réponse. Et elle me dit clairement que oui, tout ce que j'ai subi, c'est de la violence, que c'est notamment de la violence psychologique, de la violence verbale, et que ça s'est terminé en violence physique. Et donc là, c'est un double sentiment. C'est d'abord la stupéfaction, parce que jamais je n'ai mis les mots « violence » sur ce que j'avais subi. Certes, la violence physique, évidemment, parce que très facile à reconnaître, et pour le coup, avec ce qui s'est passé, voilà. Mais violence psychologique, ça ne me parle pas, je ne sais pas ce que c'est, je n'arrive pas à l'identifier, je n'ai pas d'exemple en tête. Et là, de me rendre compte finalement que c'est exactement ce que j'ai subi, c'est assez troublant. Et de l'autre côté, je suis hyper rassurée, parce que enfin, quelqu'un m'entend, me comprend, mais les bons mots sur ce que j'ai vécu, je ne suis pas folle. Enfin, en tout cas, je ne devais pas me sentir responsable ni coupable de tout ce qui s'est passé et de tout ce que j'ai pu subir, puisque je ne suis en rien responsable de ses comportements et c'est bien lui, l'auteur des violences, et non moi. Instinctivement, je me lève et je me dis « qu'est-ce qu'on en fait ? il faut en faire quelque chose et je ne sais pas quoi, mais comment est-ce possible qu'on puisse vivre ça pendant 3 ans sans jamais comprendre qu'on vit des violences, en plus à l'âge que j'avais, donc 16 ans, et combien d'autres jeunes doivent sûrement être en train de vivre la même chose sans le savoir. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle, pour les aider? Au départ, on a mené, avec ma référente de stage, des interventions dans les écoles au Québec. Moi, je racontais mon histoire, en tout cas des bribes d'histoire. Et puis, ma référente de stage était plus sur l'aspect théorie et expliquer les mécanismes de violence. Finalement, on s'est rendu compte que ça a suscité énormément de réactions, qu'à chaque intervention, il y avait des victimes qui venaient nous voir à la fin. Des jeunes comme moi, parce que c'était du secondaire, donc oui, qui étaient entre du 15 et 18 ans. Donc en stage, j'ai commencé à creuser la question et finalement, je me suis rendu compte qu'au Québec, il y a déjà depuis 20 ans des études sur les violences dans les couples ados, alors qu'on n'en a jamais entendu parler en France, qu'il y a des vraies statistiques au Québec et qu'il y a quand même 4 jeunes sur 5 du coup, qui déclarent avoir été victimes d'au moins une forme de violence, ce qui est énorme. Donc je me sens aussi moins seule. Enfin, ça remet du collectif aussi dans quelque chose qui était à la base très très personnel. Et puis quand j'essaye de creuser un peu sur la France, sur la Belgique, je me rends compte que la Belgique aussi a déjà traité cette question, a aussi fait des études de stats. Mais par contre, en France, il n'y a strictement rien, en tout cas rien d'officiel, on va dire, pas d'études menées, que la thématique arrive, mais de façon très légère, on va dire, comme si on n'osait pas en parler. Finalement, je voulais aussi permettre à d'autres jeunes de réaliser que potentiellement ils étaient victimes ou auteurs de violences et leur montrer que c'est possible, qu'il y a une sorte de vie aussi après tout ça. Et donc je suis rentrée en France, j'ai fini mes études d'assistante sociale. Je me suis vraiment attaquée à la question des violences conjugales. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la thématique des violences. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est très complexe en plus, donc c'est très intéressant professionnellement. Et donc, de fil en aiguille, une maison d'édition a eu connaissance de mon parcours et m'a contactée pour qu'on puisse travailler un projet ensemble. J'étais tout de suite partante. Ça demande vraiment un gros travail sur soi. Et je ne voulais pas faire un livre. Agathe Breton, la petite victime qui écrit son bouquin, son histoire, ça, c'est vraiment pas moi. Je voulais vraiment que ça soit hyper pédagogique, que ça ait du sens et que ça puisse être utilisé au-delà du fait d'être lu. Et donc, la sortie de mon livre l'année dernière, en 2019, avec une partie témoignage où j'ai tenté, en tout cas, de revenir sur les grands épisodes de violence et d'expliquer comment ça s'est installé progressivement. Et surtout, une deuxième partie qui est un cahier pédagogique dans lequel je décrypte les mécanismes de violence que j'explique à travers ma propre histoire pour que ce soit plus simple aussi à comprendre. À la sortie de mon livre, il n'y a pas eu de réaction de la part de Léo. En tout cas, je sais qu'il sait que j'ai écrit sur notre histoire. Dans mon livre, tous les prénoms ont été changés, le sien aussi, donc j'ai respecté son anonymat. Aujourd'hui, je suis toujours avec Quentin, tout va très bien, ça fait du bien de voir que la vie est belle après et qu'une relation amoureuse, c'est pas violent, ça ne doit pas l'être. Les choses sont tellement plus apaisantes et saines quand on est avec quelqu'un qui nous respecte surtout. J'ai appris aussi à être à l'écoute finalement de moi-même et d'oser dire les choses et d'oser exprimer mes ressentis quand je suis pas trop d'accord ou qu'il y a des choses qui me questionnent. Certes, il y a toujours ces traces qui sont là, mais j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'aide beaucoup aussi et qui connaît mon histoire, qui respecte aussi le fait que je continue d'en parler, que j'intervienne. Donc, ça fait du bien d'avoir quelqu'un de très soutenant, en tout cas, à ses côtés.
Si vous êtes victime d'injures répétées, d'humiliations, de coups, n'hésitez pas à appeler le 3919. Une personne vous écoutera et elle vous guidera pour trouver des solutions. Et l'appel n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci.
Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.